Bonjour à chacun. Ça fait plaisir de se retrouver parmi vous et de revoir des têtes connues et des têtes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps. Et vous avez aussi les salutations de Loïs, qui aurait aimé être là, mais voilà, le déplacement que j'ai fait était trop bref pour qu'elle puisse se joindre à nous. Puis nos enfants grandissent et vont bien, voilà. Et ils ont de bons souvenirs qu'ils évoquent de temps en temps d'Anthony. Donc voilà, on vous a dans le cœur et on vous a emporté quelque part en Suisse. Alors, je vais un petit peu réfléchir et présenter une vue d'ensemble du livre de Job il y a quelques semaines dans l'Assemblée locale des Trois Rois à Lausanne. Et puis, c'est une étude qui m'avait beaucoup intéressé. Et c'est un sujet qui est peu abordé. Il vient aussi toucher des choses sensibles chez chacun, chacune, la souffrance. Et le livre de Job tourne autour de deux questions. Peut-on expliquer la souffrance ? Et le deuxième thème, c'est la présence de Dieu. Alors le PowerPoint, je le mettrai à disposition. Et je vous l'enverrai de telle sorte à ce que vous ne soyez pas obligé de prendre forcément des notes. Et je vous propose, pour rentrer dans le livre de Job, de lire le chapitre 19. Pourquoi le chapitre 19 ? Puisqu'il contient peut-être le texte du livre de Job que nous connaissons le mieux, qui a été d'ailleurs mis en musique dans le Messie de Handel. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est de le lire dans son contexte, puisqu'on connaît ces versets 25 à 27 de Job 19. Et je vous propose simplement la lecture du chapitre. Et cela va déjà nous dire quelque chose du livre de Job. Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours ? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière ? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. » 6 premiers versets sont des reproches à ses amis, c'est une réponse à une intervention de Bildad au chapitre 18. Ensuite, il change de thème. « Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route, Dieu sous-entendu, et je ne peux pas passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres, il m'a dépouillé de ma gloire, il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais, il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ses troupes viennent en masse, elles ont construit une route jusqu'à moi, elles ont installé leur autour de ma tente. Il a éloigné mes frères de moi. » Et là, on passe à un troisième thème, après les plaintes à propos de Dieu, c'est la plainte de l'homme abandonné par ses semblables. « Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers. Je suis abandonné de mes proches, ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas, je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent, si je me lève, je suis la cible de leur insulte. Tous ceux à qui je confiais mes secrets montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os. Il ne me reste que les gencives. Ayez pitié de moi, vous mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait ? Pourquoi n'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi ? Quatrième thème, si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous me direz alors, pourquoi le poursuivrons-nous? Quand on découvrira le bien fondé de ma cause? Redoutez pour vous l'épée, les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement. J'ai lu tout le chapitre 19 parce que là nous fait prendre conscience de la difficulté du livre de Job. On passe souvent d'un thème à l'autre. Et cela nous désarçonne quelque peu. On ne sait pas par quel bout l'attraper, ce livre. Et c'est quand même signifiant, je le dirai plus tard, c'est que le passage d'un thème à l'autre, surtout dans les propos de Job, sont les paroles d'un grand souffrant. Et le grand souffrant va passer d'un thème à l'autre, comme cela sort, sans classer ce qui se passe dans son cœur. Et je trouve ça très intéressant, c'est très signifiant. Et ce que je vous propose, c'est peut-être pour éclairer ce chapitre 19, ensuite de faire un tour de ce livre. Et de se dire pourquoi ce livre? Parce que la souffrance, c'est une réalité qui est criante. Et là où le mal, c'est une écharde pour notre raison, la souffrance, c'est plutôt une écharde pour notre cœur. C'est un mystère qui nous questionne. C'est un mystère face auquel nous sommes des fois démunis. Et ce livre est à ce titre mystérieux. Et les questions qu'il soulève, c'est le pourquoi de la souffrance. Et on verra que le livre est structuré autour des réponses possibles données à la souffrance, au mystère de la souffrance. Ensuite, Job va supplier pendant tous les chapitres, jusqu'au chapitre 31, le moment de ses paroles finales, va supplier ce Dieu absent qu'il ne trouve pas, face auquel il aimerait se retrouver pour se défendre, avoir un procès duquel il sorte grandi, duquel il sorte justifié. Et puis les questions que cela soulève pour nous, c'est soit quand on traverse la souffrance nous-mêmes, nous posons des questions, pourquoi je souffre? Quel est le sens de la souffrance que je traverse? Mais aussi quand nous sommes des aidants, des proches, cela nous pose aussi des questions par rapport au dialogue que nous avons par rapport aux souffrants. Alors, ce livre est structuré en plusieurs parties. Le prologue, qui est narratif, va donner une première hypothèse quelque part. La première hypothèse, ça serait plutôt « on souffre parce que Satan est derrière ». Et on voit cette scène dans le prologue. Ensuite, dans les dialogues, ses amis lui disent « c'est à cause du fait que tu es péché ». Et même du péché de l'humanité de façon plus générale. Donc c'est ce qui va occuper la partie la plus grande du livre, des chapitres 3 à 31. Ensuite, Elihu va proposer, alors c'est très schématique bien sûr, puisque les amis de Job vont aussi, les trois amis, dire que c'est pour nous instruire, mais plus particulièrement, ils vont mettre l'accent sur le péché. Elihu va plutôt dire, non, ce n'est pas à cause du péché, mais c'est plutôt pour nous instruire que la souffrance a été donnée. Puis Dieu ne va pas donner de raison à la souffrance, mais c'est sa présence qui va apaiser Job. Ce n'est pas une explication à la souffrance. Et enfin, l'épilogue nous amène à un état où tout est grâce, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des explications avancées ne sont intrinsèquement pas fausses. C'est-à-dire que Paul va dire en 1 Thessaloniciens 2, Satan nous en a empêchés. Donc Satan, adversaire, nous met des bâtons dans les roues. C'est une réalité. Et puis Paul le même va dire en Galates 6, verset 7, ce qu'un homme, un être humain a semé, cela aussi le moissonnera. Donc d'une certaine manière, nous récoltons les conséquences de nos actes, dans une certaine mesure. Donc ce n'est pas faux non plus. Et puis le fait que la souffrance soit là pour nous instruire, eh bien en Hébreux 12, l'auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux va dire ceci. Vous avez oublié l'encouragement qui vous a adressé comme à des fils. Mon fils, citation des Proverbes, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il punit ce qu'il reconnaît comme ses fils. Donc le fait qu'on apprenne quelque chose à travers la souffrance, C'est si on interroge des personnes qui ont souffert ou des souffrants, souvent ils diront j'ai appris cela ou cela à travers la souffrance. Mais c'est eux qui le disent. C'est pas nous qui pouvons dire à un souffrant oui, c'est pour ton bien quelque part. Et Dieu ne donne pas de raison. Et c'est extrêmement intéressant. Alors je vous propose d'entrer déjà dans le prologue, avec cette structure parallèle où vous avez en fait la cour des fils de Dieu, où Satan se présente et Dieu donne ce défi à Satan, tu considérais mon serviteur Job, etc. Et Satan, dans le périmètre qui lui est assigné par Dieu, va provoquer des catastrophes successives qui s'enchaînent à un rythme affolant. D'abord la perte de tous ses proches, de tous ses biens. Et ces catastrophes arrivent dans les instants les plus légitimes et les plus heureux d'une vie. C'est quelque chose qui est assez frappant. Et on a divers personnages. Job, c'est quelqu'un à qui tout réussit. C'est quelqu'un que l'Écriture reconnaît comme juste. Dans Ézéchiel 14, s'il se trouvait trois hommes, dont Job, il est reconnu comme persévérant. La persévérance de Job est reconnue par l'Écriture. Et le fait que ce profil-là soit présenté dans le livre de Job, c'est justement, soulève la question de la souffrance des innocents. Puisque s'il y en a un qui ne devait pas souffrir, par sa piété, par sa fidélité, c'était bien Job. Et le livre de Job pose, du coup, la souffrance des innocents. Satan émet deux soupçons. Le premier soupçon, c'est est-ce pour rien que Job te sert? Et c'est une question qui peut aussi nous être adressée aux uns et aux autres. Est-ce pour rien? Ou alors est-ce que nous servons Dieu de manière intéressée? Et puis ensuite, Satan dit oui, bon, d'accord, il a perdu tous les siens, il a perdu tous ses biens, mais ce qu'un homme a, il est prêt à l'échanger pour sa vie. Et quelque part, il a encore une motivation égoïste. Mais cette première hypothèse est balayée par la réaction de Job, qui est extrêmement fidèle. La femme de Job est plus ébranlée que lui. Elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Et elle est confrontée, on l'a lu dans le chapitre 19, au verset 17, même mon haleine est repoussante pour ma femme. Et cela pose la question des proches, qui sont peut-être beaucoup plus touchés encore que le souffrant lui-même. La femme de Job fait une rapide apparition et disparaît. Et Job termine cette réaction par cette déclaration, le premier cycle en tout cas, par l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Et j'ai mis, est-ce que c'est trop beau? C'est vrai que des cantiques ont été composées, béni soit ton nom, ont été composées sur ce verset-là par des personnes qui ont vécu des circonstances extrêmement difficiles. Et mon arrière-grand-mère, Rachel Delarbre, a perdu trois de ses enfants en 3 ans. En 1913, une fille de la tuberculose. En 1914, une autre fille de la tuberculose. En 1915, son fils aîné à la guerre de 14. Fils aîné dont d'ailleurs les lettres et la correspondance ont été publiées sous la forme d'un livre. Vous pouvez trouver les lettres de Joël Delarbre, si cela vous intéresse. Et sous la photo de ses trois enfants, elle a marqué ce verset-là. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Et quand j'avais une vingtaine d'années, je trouvais que c'était magnifique. Je trouvais que c'était un exemple de piété incroyable. À la lecture du livre de Job aujourd'hui, je me pose la question avec beaucoup de compassion pour mon arrière-grand-mère, quand est-ce et comment la plainte est sortie? Et le livre de Job, justement, aurait pu s'arrêter là pour ensuite aller tout de suite à l'épilogue. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Le cycle est terminé. Et puis, ma foi, Dieu lui rend, au bout d'un moment d'épreuve, le double de ce qu'il lui a ôté. Mais la souffrance de Job et l'exemple de Job auraient été à ce moment-là pour nous inaccessibles. Ça aurait été quelqu'un qui ne nous aurait pas aidés par rapport à notre propre souffrance. Et donc, la sagesse de l'Esprit de Dieu qui. Et puis, L'histoire nous entraîne dans autre chose, dans la relation à la souffrance. Et donc, ensuite, Job va parler. D'abord, ses amis viennent le voir et restent 7 jours et 7 nuits sans rien dire. Et ces 7 jours et 7 nuits sont intéressants puisqu'ils introduisent pour la première fois dans le livre une durée dans la souffrance. Avant cette grande partie de chapitre 3 à 31. Ensuite, d'autres commentateurs peuvent peut-être les structurer un petit peu autrement, mais ce que je vous propose comme structure, c'est que cette partie, grande partie, se commence par un monologue et se termine par des monologues. Un monologue de plainte et se termine par des retours sur le passé, deux anamnèses, et entre deux, la réalité présente. Et ensuite, vous avez 3 cycles. Où les amis parlent et Job répond systématiquement. Sauf qu'au troisième cycle, il est un peu tronqué parce que le troisième ami ne répond pas. Et donc, notre lecture du jour se situe dans le cycle 2. Et se trouve un chapitre que plusieurs commentateurs pensent être le chapitre pivot du livre, où Job va faire une ode à la sagesse que l'on ne peut trouver. Comme en réponse à ses amis en disant, vous avez essayé de m'enseigner par votre sagesse, mais la sagesse de Dieu, elle est introuvable et vous ne l'avez pas vraiment trouvée. Le message sous-entendu. Alors voici ces 3 amis. Première explication, c'est le péché, la force de la tradition. Les 3 amis, et ils ont des caractéristiques un petit peu différentes. Éliphaz va beaucoup dire, voici ce que j'ai vu, selon ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu. Donc c'est son expérience personnelle qui structure sa pensée. Bildad va dire, nos pères ont dit ceci, consulte nos pères qui te renverront à nos ancêtres la tradition. Et Tsophar va plutôt être très dogmatique. Et ce que ses amis lui disent, en fait, il développe en fait plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est le fait que le juste lui est heureux. Et je vous propose de lire Job 11, les versets 17 à 19. Alors, c'est important de comprendre ça pour ensuite comprendre comment Job leur répond. On a lu la réponse de Job à ses amis au chapitre 19. Bonheur du juste, c'est ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi, tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin, tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter, beaucoup rechercheront ta faveur. Le deuxième thème que les amis de Job déroulent, c'est que tout péché trouve sa sanction. Le méchant vivra dans le malheur. Et je vous propose de lire au chapitre 18 quelques versets, dans les versets 5 à 20, puisque c'est à ce discours que Job répond immédiatement dans les versets que nous avons lus. Oui, la lumière du méchant s'éteindra. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, si assurés soient-ils, se feront petits, et ses propres plans le feront trébucher. En effet, il a été pris les pieds dans un filet, il marche sur les mailles, il est pris au piège par le talon et les lacets se resserrent sur lui. Le cordage qui le prend au piège est caché dans la terre et la trappe l'attend sur son sentier. Des terreurs l'assiègent de tous côtés. Elle le poursuit pas à pas. La faim anéantit ses forces, la misère est présente à ses côtés. Elle dévore les parties de sa peau, ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort, etc. Il est arraché de la tente. Donc on a des images à la fois d'enfermement, de terreur, de misère, de perte et de néant. Mais sous-entendu, ça veut dire Job, il t'est arrivé cela. Donc tu dois ressembler à un méchant. C'est le sous-entendu du discours « Rien ne réussit au méchant », mais quelque part, dans l'épreuve qu'ils décrivent du méchant, ça rejoint assez ce qui est arrivé à Job. Et puis ils vont dire « Nul n'est pur devant Dieu ». Et ce que je trouve très signifiant, c'est que souvent ils vont faire des appels au changement à Job. Et je vous propose de lire au chapitre 11, les versets 13 à 20. Et de bien imaginez que quelqu'un qui n'a pas commis de péché, comme Job, qui est dans une position extrême de souffrance, entende cela. Job 11, verset 13. « Quant à toi, Si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches, tu seras ferme et sans peur. Sous-entendu, alors tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Alors ton existence n'aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir, etc., etc. Et les amis sont dans un cycle de rétribution et appel au changement. C'est-à-dire que ces amis se sont enfermés dans un raisonnement. Et ces amis tournent en boucle, et les dialogues tournent tellement en boucle que l'aigreur monte au fil des dialogues. Et on le voit, si maintenant on se réfère au chapitre 19, et cela éclaire notre lecture du jour. Job prit la parole et dit: jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Qui répond: jusqu'à quand de Bildad, du chapitre 18. Voilà 10 fois, c'est une figure de style. C'est comme quand Jacob dit à ses femmes: 10 fois il a changé mon salaire. Cela montre la répétition, en fait. Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre, n'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Même si j'avais vraiment commis une faute, le terme en hébreu c'est une faute involontaire, cela ne regarderait que moi. Et donc ils sont enfermés dans un raisonnement qu'ils veulent défendre à tout prix, c'est la souffrance viendrait d'un péché individuel ou d'un péché collectif. C'est pas tout à fait faux, mais là c'était faux par rapport à la situation de Job. Alors comment Job répond? Déjà par rapport à la thèse du méchant qui est toujours puni. Il va leur dire, non, non, c'est pas vrai. Chapitre 9, versets 22 à 24, il va leur dire cela. Qu'importe après tout, en effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant. La terre est livrée entre les mains du méchant. Tout réussit au méchant. Donc je ne suis pas d'accord avec vous. Et Job va surtout mettre l'accent sur l'amitié trahie. Là où Job se sent agressé par Dieu, ses amis lui parlent de transgression. Là où Job ressent une agression. Et Job va leur dire, même si j'avais vraiment commis une faute, je l'ai lu, cela ne regarderait que moi. Il poursuit, si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur. Et en fait, ses amis, au lieu de se placer à côté de Job, face à Dieu, prétendent se placer à côté de Dieu pour le défendre face à Job. Et donc, si vous voulez vous grandir à mes dépens. Parce que ses amis veulent absolument trouver une raison à la souffrance, trouver une explication. Ses amis, au nom de Dieu, pour défendre Dieu, vont dire en plus beaucoup de bêtises. Et Job le leur dit au chapitre 13, c'est extrêmement intéressant, au verset 7. Job au chapitre 13, au verset 7. Lancerez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu? Pour le soutenir, allèguerez-vous des faussetés? Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur si vous plaidez pour lui? S'il vous examine, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? À coup sûr, il vous le reprochera. Verset 11, sa majesté ne devrait-elle pas vous épouvanter? Ils utilisent des paroles de gloire, de louange, pour même réduire Job au silence. Et Job les implore en vain. Et en lisant Job, il y a quelques mois, de façon cursive, j'avais été très touché par les versets 14 à 15 du chapitre 6, que je vous propose donc de lire, et puis de relire le verset 21 du chapitre 19. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trompé comme le fait un torrent, comme les cours d'eau qui disparaissent. Au chapitre 19 et au verset 21, il va les supplier. Ayez pitié. Il répète, pour bien insister. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Alors cela nous fait réfléchir par rapport aux peurs ou aux pièges dans lesquels nous pouvons tomber lorsque nous accompagnons un souffrant. Peut-être qu'on a la peur de la contagion. Peut-être ont-ils accusé Job de péché pour le tenir à distance et pour ne pas être eux-mêmes gagnés par cette souffrance insupportable qui se déroule en face de leurs yeux. Les trois amis, tout comme Élie d'ailleurs, proposent des explications à la souffrance. Et je pense que pour nous, pour un accompagnement avec un souffrant, vouloir expliquer aux souffrants, vouloir nous expliquer la souffrance, est un piège. En tout cas, c'est un piège dans ces dialogues de ces trois amis avec Job. La souffrance a quelque chose de révoltant, tellement révoltant qu'elle est même, comme le mal, inexplicable. Les trois amis ont voulu justifier Dieu aussi, ont voulu expliquer l'action de Dieu. C'est un autre piège. Et le quatrième piège, c'est que peut-être, et on le voit à travers les dialogues qui s'intensifient, ce que Job jette à la figure de ses amis, ce que Job jette à la figure de Dieu, quand il se plaint à propos du Dieu à la troisième personne et à la deuxième personne, il jette tellement de choses à la figure de ses amis que je pense que les amis ont eu peur de l'expression même de la souffrance. Donc, deux peurs que je trouve intéressantes, en tout cas, c'est ce qui m'a parlé à travers le texte ensuite. Je pense que des personnes qui ont beaucoup plus d'accompagnement des souffrants que ce que je peux en avoir rajouteront des choses à cette liste. Mais je pense qu'on peut tout à fait déduire du texte ces quatre points. Peur de la contagion, peur de l'expression de la souffrance, vouloir expliquer la souffrance, vouloir justifier Dieu. Et Job rentre dans un cycle qui à la fois fait de plainte et d'espérance. Et ce qui est intéressant, au niveau de la structure du livre, c'est que là où ses amis tournent en boucle autour des mêmes arguments, autour des mêmes pensées, Job va changer au fil des cycles. C'est-à-dire qu'il va se plaindre, mais au fur et à mesure des cycles, vous allez voir des paroles d'espérance venir de plus en plus dans le discours de Job. Et Job, dans ce dialogue, dans ses questionnements, dans son expression, quelque part, va être préparé à cette rencontre finale avec Dieu. Alors je vous propose de lire quelques versets par rapport à la manière dont Job se plaint ou pourquoi il se plaint. Job se plaint principalement du fait que le dialogue avec Dieu est impossible. Chapitre 9, versets 16-17. Même si je faisais, je vous laisse chercher. Job 9, versets 16 et 17. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Et puis il finit le chapitre en disant, au verset 32, Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Job, son point, son rêve, c'est d'être rendu juste publiquement. Et il aimerait aller en justice devant Dieu. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. La version grecque de l'Ancien Testament dit si seulement il y avait un médiateur qui pose sa main sur nous deux. Et cette version grecque a traduit le mot, donc en grec, médiateur, par le même mot qui est employé dans le Nouveau Testament, quand il est dit par exemple, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Le cri vers le médiateur. Et le Nouveau Testament qui donnera une réponse de celui qui se présentera comme ce médiateur. Job se plaint de Dieu et se plaint de la brutalité de Dieu. Et nous l'avons lu, je dénonce la violence dont je suis victime, chapitre 19, personne ne répond, il m'a barré la route, il m'a dépouillé de ma gloire, il m'a brisé à tout point de vue, il a arraché mon espérance. Ces termes sont extrêmement forts. Et Job va dénoncer la brutalité de Dieu. Et il va même aller plus loin au chapitre 23, je trouve que c'est l'expression extrêmement forte, au verset 15 et 16. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'y réfléchis, J'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Dieu me fait peur. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Donc ces thèmes transversaux remplissent la plainte de Job. Et le résumé de la plainte de Job, c'est au chapitre 23, verset 3, c'est « Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver à son lieu de résidence. » Et c'est peut-être des expressions ou des pensées qui ont traversé le cœur des souffrants. C'est autour de l'absence de ce Dieu. Mais je souffre, mais si je savais où trouver Dieu. Et c'est le cri du cœur de Job. Ensuite, Job, après s'être plaint de Dieu en il, va se plaindre de Dieu en tu. Et il va lui jeter des choses à la face. Pour contester, je ne vais pas lire les textes, je vais juste les survoler, vous pourrez les relire avec le PowerPoint. Il va contester sa bonté et ses intentions. Il va contester sa sagesse pour lui dire « Mais tu m'as créé, ça sert à quoi de me détruire ainsi ?» Et il va contester sa justice. Les paroles de Job sont violentes. Mais j'ai lu dans un commentaire une très belle parole. C'est que la violence fait partie pour Job et vis-à-vis de Dieu du langage de l'amour qu'il lui porte. La recherche inlassable, et Job essaye de placer devant Dieu des images qui seraient insupportables à Dieu, en fait. De dire, mais est-ce que tu te reconnais là-dedans, dans ce que tu me fais? Pour interpeller Dieu, pour être ensuite justifié. Et puis, il y a trois traits d'espérance dans le deuxième cycle. Il y a peu de textes d'espérance dans le premier cycle, mais dans le deuxième, il y a trois textes majeurs. Et leur lumière est tellement dense que, quelque part, elle vient contrebalancer toutes les plaintes. Et je vous propose de lire ces trois textes au chapitre 16, d'abord les versets 18 à 22. Chapitre 16. Terre ne couvre pas mon sang. C'est intéressant, d'ailleurs, on voit des connexions assez fréquentes entre les thèmes de la Genèse et les thèmes de Job. Couvre pas mon sang. On peut voir un parallélisme avec Genèse 4 et le sang d'Abel. Que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit dans ce cri d'espérance un dédoublement de l'image de Dieu. Puisque Job va à la fois dire que Dieu est son témoin, mais en même temps, Dieu, dans tous les chapitres précédents, était présenté comme celui qui le jugeait, celui qui exerçait quelque chose de fort contre lui. On a ce dédoublement dans l'espérance de l'image de Dieu. Et le Nouveau Testament éclaire magnifiquement ce dédoublement de l'image de Dieu avec Jésus-Christ, qui a été notre témoin devant Dieu, notre avocat devant un Dieu juge. Et on a en filigrane, quelque part, ces choses que l'on retrouve aussi au chapitre 17 et au verset 3. Je vous propose de lire aussi. Sois donc mon garant auprès de toi-même, qui d'autre s'engagerait pour moi ou me taperait dans la main. Et là encore, le Dieu est celui qui va être garant, qui va payer la dette dans cette parole d'espérance. Mais on est dans un contexte où Job se sent écrasé, éprouvé par Dieu. Donc c'est un autre, encore une fois, un dédoublement de l'image de Dieu. Et puis ce texte de « Mon Rédempteur est vivant ». Et je vous propose de le relire. D'abord, les versets 23 et 24, Job aimerait que ses paroles lui succèdent après la mort. C'est ce qu'il exprime en quelque sorte. Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, et il aimerait que ses paroles soient persistantes, soient éternelles. Je voudrais qu'elles soient pour toujours. Gravé dans un roc avec un burin de fer avec du plomb. Et ensuite, il invoque la figure du Rédempteur, du Goël de l'Ancien Testament. D'abord, ce terme est employé à propos du vengeur de sang, il va être employé à propos du proche parent. Et je sais que celui qui me rachète est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Et cette image est souvent associée à l'Éternel. Par exemple, si on lit dans Ésaïe 44, je crois, on trouve exactement ces mêmes termes. Verset 6. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, à celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier de debout sur la terre. Il y a un autre texte d'Ésaïe qui dit la même chose. Donc c'est Dieu. Attendez, je reviens. Au verset 26. C'est lui que je contemplerai, il me sera favorable. Pardon. Quand ma peau a été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Alors on peut se demander, qu'est-ce que Job espérait en prononçant ces paroles? Les pères de l'Église ont vu tout de suite une allusion à la résurrection après la mort, puisque même Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle, a traduit de cette façon-là le verset 25. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant, et je sais que je me lèverai moi le dernier sur la terre. Donc il avait cette espérance. Oui, la Vulgate a traduit comme ça. Et les pères de l'Église y ont vu une allusion à la résurrection après la mort. Mais Job n'avait pas 1 Corinthiens 15. Job n'avait pas tout le développement sur la résurrection. Et il est possible aussi que Job attende simplement le fait de voir Dieu de son vivant et d'avoir dans son épreuve Dieu qui parle comme étant le dernier, qui se lève comme un témoin sur la terre et qui parle le dernier. Et c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que Dieu, dans le cycle de Job, va parler le dernier. Et Job va dire au chapitre 42, maintenant, mon œil, t'as vu. Mais cela n'exclut pas non plus qu'il ait cette pensée après ma mort, puisque on a lu les versets 23 à 24, ce rêve que ces paroles perdurent, que ces paroles restent. Et tout de suite après, celui qui me rachète est vivant. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que Job avait compris que sa vie, elle était cachée à sa relation avec le Dieu vivant. Que sa vie éternelle et sa vie dans son épreuve, elle était indissolublement liée au Dieu qui était vivant. Et c'est ce qui rend ces choses extrêmement belles. Mais rappelons-nous que Job n'a pas toutes les clés du Nouveau Testament. On fait souvent cette erreur quand on lit Job, finalement. Alors ensuite, je vous propose de réfléchir un petit peu par rapport à ce que nous avons lu entre-temps, c'est-à-dire la plainte par rapport à son état, les versets 13 à 20, puisque schématiquement, on a regardé au début du chapitre la réponse à ses amis, on a vu pourquoi il a répondu cela à ses amis. Et ensuite, des versets 7 à 13, c'est Job se plaint de Dieu en il. Donc on a vu des textes transversaux. Ensuite, Job émaille ses discours de textes d'espérance, c'est la fin du chapitre. Mais Job décrit son épreuve. Je suis abandonné de mes proches, ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger, etc. Et c'est intéressant pour un peu mieux comprendre la profondeur de l'épreuve de Job, de lire ce dont il se souvient, l'anamnèse qu'il fait de son bonheur. Et je vous propose de lire quelques textes dans le chapitre 29e. Je vous propose de lire les versets 4 à 5. Déjà le verset 2. Si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait. Verset 4, j'atteignais alors mon plein épanouissement. Dieu veillait en ami sur ma tente. Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Mes pieds baignés dans la crème et un rocher déversé près de moi des torrents d'huile. Versets 21-25, ses relations aux autres, après sa relation avec Dieu. On m'écoutait, plein d'attentes, on gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes discours, personne ne répliquait. Mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais. Ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais le chemin à suivre pour eux. Je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe. Comparez ces paroles avec les paroles que nous avons lues au chapitre 19, quand il dit « Je suis abandonné. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger. » Lui qui était le maître, autour de qui tout tournait. C'est le chapitre 29, est très intéressant. On voit que tout tourne autour de Job. Job, c'est vraiment la personne centrale. Les faveurs de Dieu, les faveurs des autres, la considération des autres, tout tournait autour de Job. Et là, tout est cassé. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas, je dois me mettre à le supplier. Vous voyez un peu la déchéance. Et c'est intéressant de lire le chapitre 19, du coup, en relation avec le chapitre 29, avec ce souvenir qu'il avait de son bonheur. Mais tout tournait autour de lui, c'est assez intéressant. Ça nous permet de nous comprendre un petit peu la fin. Ensuite, Job change de registre au chapitre 30. Dit, mais et maintenant, donc là on est dans le même registre qu'au chapitre 19, dans ce que nous avons lu sur sa plainte par rapport à son état. Et puis, il termine ses paroles, et c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer, par un autre souvenir, une autre anamnèse de justification. De dire, je vous propose par exemple, à partir du verset 5, Verset 4, Job 31, 4. Dieu ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est écarté du droit chemin, si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux, si une impureté quelconque s'est attachée à mes mains, etc., etc. Sous-entendu, non. Tout ce que je vous liste, tout ce que je vous énumère, je n'ai rien commis. Et son rêve, c'est de paraître juste devant Dieu. Et c'est ainsi qu'il termine ses paroles, le verset 35, Si seulement quelqu'un m'écoutait. Voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me réponde. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte. Job, il n'aspire qu'à cela, à rendre compte pour être rendu juste. Alors, là se termine fin des paroles de Job. Ce que je trouve très beau, quelque chose qui me touche, c'est que les paroles de Job alternent, et c'est ce qui rend le livre difficile, entre la plainte, l'accusation, la justification, le souvenir, la louange, l'interpellation et l'espérance, et d'autres thèmes encore. Elle passe très brusquement d'un thème à l'autre. Car nous nous retrouvons en présence d'un souffrant. On peut être déstabilisé par le changement de registre extrêmement brutal, extrêmement rapide, de l'un à l'autre. Et les paroles de Job sont là pour nous dire que ce sont les paroles d'un grand souffrant. Quand on souffre, on ne va pas faire une souffrance exprimée en trois points. Avec, dans le premier point, j'organise ma plainte. Dans le deuxième point, j'organise le retour sur moi-même, et dans le troisième point, j'organise la foi et l'espérance. Mais on passe, et ça sort. Et cela nous apprend peut-être à nous tenir à côté des souffrants. La fin des paroles de Job, ça me touche beaucoup, parce que tout au long de ces chapitres, c'est les paroles d'un grand souffrant. Et en réfléchissant, je me disais, mais quels sont les pièges du souffrant, dans lequel un souffrant peut tomber? Quelle est la lumière qui peut éclairer un souffrant. Un des pièges, c'est personne ne peut me comprendre. Si vous n'avez pas traversé ce que je vis, vous n'êtes pas légitime pour me comprendre et pour me parler. Et des fois, ça peut s'expliquer, parce que trop de personnes ont entouré ces souffrants en disant des bêtises, soit en voulant justifier Dieu, soit, etc. Donc cela a créé des réactions de colère, de rejet, mais aussi il peut y avoir une forme d'orgueil dans la souffrance qui fait dire, mais si tu n'as pas vécu la même chose que moi, tu n'es pas légitime. Et là, c'est pour moi un grand piège du souffrant. cela conduit à l'isolement. Quand on s'isole de façon à ne plus accepter personne comme étant légitime, même s'il n'a pas vécu les mêmes choses, mais les personnes sont animées aussi par l'Esprit de Dieu, pour dire quelque chose, c'est assez pernicieux, ça conduit dans l'isolement. Le Job 1, verset 21, j'ai fait allusion tout à l'heure, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. La piété a sa légitimité, mais des fois, la piété, en refusant l'expression de la souffrance, peut basculer dans quelque chose qui n'est pas chrétien, c'est le stoïcisme. Et donc, cela peut... le livre de Job légitime l'expression de la souffrance, légitime les questions. Légitime même ses cris et cette recherche de Dieu. Mais ce qui me touche aussi beaucoup dans la lumière de Job, c'est que Job va inlassablement demander ce face-à-face à Dieu. Et je vous lis d'une façon différente le texte de Jacques 5. Vous avez entendu parler de la patience ou de la persévérance de Job. Job a persévéré dans son interpellation, a persévéré dans son raisonnement, a persévéré dans cette recherche d'espérance. Et je trouve ça très lumineux, finalement. Alors je vous propose l'épilogue, « Je verrai Dieu ». Et c'est donc l'intervention de Dieu à partir du chapitre 38 jusqu'au chapitre 42. La première remarque, c'est que Dieu apparaît dans ces chapitres-là sous un nom différent, c'est l'Éternel. Alors que dans les chapitres précédents, c'est Eloi. Eloi, c'est le Dieu juste, c'est un Dieu qui est plus lointain. Alors que le Dieu éternel, c'est le Dieu relationnel, qui vient en relation avec l'être humain. Il apparaît sous un nom différent à ce moment-là, comme pour dire « voilà, je suis présent, j'arrive ». Dieu parle du milieu du tourbillon, du milieu de la tempête. Alors, bien sûr, on voit que la tempête, ça accompagne la présence de Dieu. Mais symboliquement, je trouve très belle cette pensée communiquée. D'ailleurs, pas mal de choses m'ont été communiquées dans cette réflexion par ton frère, Elisabeth. C'est que Job est rejoint par Dieu dans sa tempête. Dieu parle à Job au milieu du tourbillon qui est lui. Dieu n'est pas présent à l'extérieur de ses circonstances, il est présent en plein milieu de ces circonstances. Et là où ces chapitres vont traiter de la souveraineté de Dieu, ce n'est pas une souveraineté jupitérienne, sans rapport avec la politique, mais ce n'est pas une souveraineté qui écrase, où nous n'avons rien à dire, où nous n'avons rien à répliquer. La souveraineté de Dieu est toujours liée aussi à sa bonté et à sa délicatesse. Et dans le discours, on va le voir. Et Dieu ne va pas répondre. Mais il va poser des questions. Et là où Job attendait un procès, il va être en proie à une joute intellectuelle que Dieu va lui soumettre. Et je vous propose donc de lire la manière dont la pédagogie de Dieu va sortir Job de ses enfermements. Si Dieu était entré sur le thème du procès, peut-être, on peut supposer que Job aurait continué dans ce désir, je veux être justifié, etc. La pédagogie de Dieu, elle est tout autre. Dieu ne va pas répondre à ces questions. Il va lui en poser. Et je vous propose de lire au chapitre 38. Ça se prolonge un petit peu. J'espère que c'est pas trop... Ça va ? Chapitre 38, il va lui dire « Mais qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel ? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui ai fixé les limites imposées verrou et porte ? Quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Donc Dieu va l'emmener d'abord dans le cosmos. Puis il va lui dire, chapitre 38, verset 31, « Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion ?» Tout l'équilibre du cosmos, est-ce toi, est-ce moi ? Ensuite, il va lui dire, au verset 16, « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre ? Les portes de la mort ont-elles été dévoilées ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Il va l'emmener vers des espaces inconnus qui font peur à l'être humain. Mais Dieu se présente comme le maître de ces espaces inconnus. Et puis, il va lui dire avec grande délicatesse, « Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits, sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. » Il y a une délicatesse, une tendresse vraiment extrêmement belle de ce Dieu créateur. Et en même temps, ce Dieu créateur, il est libre. Il est libre à la fois de donner la grande intelligence à l'ibis, un animal. D'autres traductions de la seconde 21 disent « qui a mis la sagesse au fond du cœur et donné de l'intelligence, non pas à l'esprit, mais à l'ibis ». Et au chapitre 39, en contraste, au verset 17, il parle de l'autruche. Et en effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Donc je suis maître de faire l'autruche qui est l'animal le plus stupide qui soit, mais de faire l'ibis et de lui donner l'intelligence. Je suis libre, je suis délicat dans ma création. Et en creux, les limites de ces questions posées à Job, c'est de dire, mais tu es limité par rapport à la durée. Où étais-tu avant? Où étais-tu? Tu n'es là que de passage. Ensuite, Dieu va lui dire, mais ton savoir est limité. Versets 17 et 18 du chapitre 38, il va lui dire, as-tu perçu, verset 18, toute la largeur de la terre? Déclare-le, si tu sais tout cela. Et enfin, au chapitre 38, au verset 5 et 8, il va l'interroger sur les limites de son pouvoir. Qui a fixé les dimensions de la terre? Tu le sais, n'est-ce pas? Qui a déployé son ruban à mesurer? Verset 8. Qui a bloqué la mer avec ses portes? Job, tu es limité dans la durée. Tu es limité dans ton savoir. Tu es limité face à moi dans ton pouvoir. Et ensuite, il va venir à la question cruciale au chapitre 40, les versets 8 à 14. Dire, mets donc une ceinture autour de ta taille, je t'interrogerai, tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? L'obsession de Job, avoir raison, être justifié. As-tu un bras pareil à celui de Dieu? Donc, est-ce que tu es capable à la fois de proclamer le jugement et de l'exercer? Le bras de Dieu, c'est celui qui exerce le jugement. Une voix tonnante comme la sienne. Pars-toi donc de fierté et de prestige, habille-toi de majesté, de splendeur, etc. Fais ce que je fais. Et en fait, Dieu lui dit deux choses. Il dit, tu n'es pas maître de l'histoire et tu ne peux pas exercer la justice. Et quelque part, Job avait besoin d'abandonner sa propre justice pour trouver la justice de Dieu. Pendant presque 30 chapitres, il a essayé de clamer sa justice, mais il avait besoin d'abandonner sa justice pour trouver la justice de Dieu. Et ensuite, Dieu lui décrit deux bêtes formidables, le Béhémoth et le Léviathan. Et ces bêtes encore soulignent les limites de Job, et elles montrent d'autant plus la majesté de Dieu. Quand Dieu dit à propos du Léviathan, tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait me résister en face? Qui m'a donné le premier pour que je le paie en retour? Tout ce qui est sur le ciel m'appartient. Et ainsi, la pédagogie de Dieu va faire changer Job. Va lui faire comprendre qu'il doit abandonner sa propre justice pour trouver celle de Dieu. Et que le plus important, c'est que maintenant, il se trouve dans la présence d'un Dieu. La présence d'un Dieu souverain n'est pas une souveraineté qui écrase, c'est une souveraineté qui va aussi prendre soin des biches, qui va prendre soin des petits détails dans la création. Et la souveraineté de Dieu n'est pas déconnectée de sa bonté, de son amour. Dans l'évangile selon Jean, quand Lazare est malade, Jésus prend du temps pour se rendre auprès de Lazare. C'est sa souveraineté. Et sa souveraineté parce qu'il voulait que Lazare soit mort depuis plusieurs jours pour pouvoir démontrer qu'il avait le pouvoir sur la mort, pour ressusciter Lazare. Ça, c'est sa souveraineté. Mais juste avant, il nous a dit, Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. Il est souverain et il aime. Ce n'est pas une souveraineté jupitérienne et c'est ce Dieu-là qui vient nous rejoindre dans la souffrance. J'ai mis ces deux petits signes pour dire effectivement que, voilà, il y a 2 ans, quand nous avons perdu notre éditrice en chef, Viviane, c'est les textes et la pensée de la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qui m'a profondément soutenu et encouragé. Et aussi qui a rempli les derniers instants de Viviane. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, Dieu sait ce qu'il fait, même là. Et elle n'avait pas besoin, j'ai senti, de réponse au pourquoi un cancer l'a emporté en 3 semaines. Mais ce qui lui a permis de partir en paix, c'est la souveraineté de Dieu. Et j'ai vu une lumière comme je n'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue ainsi lumineuse. Et le livre de Job est intéressant parce que par rapport à l'accompagnement du souffrant, je crois que nous n'avons pas cherché d'explication à la souffrance, mais si nous pouvons, en étant là, à côté du souffrant, en face de Dieu, et non pas à côté de Dieu, en face du souffrant, nous pouvons peut-être contribuer à emmener le souffrant, à l'amener en présence de ce Dieu-là. Et donc, Job se soumet. Job a été confronté aux limites de son savoir, au verset 2 et 3, et je terminerai là-dessus. Job dit, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Voyez le changement de ton par rapport au chapitre 19, par rapport à tout ce que nous avons lu. L'irruption de Dieu provoque cela. Job se soumet par rapport à ce schéma entendu et il est habité d'une foi plus proche de Dieu. Oui, j'ai parlé. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Je verrai Dieu maintenant. Mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts dans la poussière et sur la cendre. De quoi Job se repent-il? C'est un peu mystérieux, puisque même Dieu va le reconnaître comme juste dans les chapitres 1 et 2 et à la fin. Peut-être que le chapitre 29, en tout cas, je trouve une clé dans le chapitre 29, dans ce souvenir du bonheur, cette anamnèse où tout tournait autour de Job, à tel point qu'il offrait des sacrifices pour ses enfants au cas où ils aient péché et pour lui. Là où tout le monde était autour de lui pour boire ses paroles, les formules sont très fortes dans le chapitre 29, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, en gros, mes paroles, c'était comme de l'eau sur la terre desséchée pour ces pauvres gens, quoi. Et je pense que Job s'est sorti de cette position où tout tournait autour de lui. Job a dû abandonner sa justice pour trouver celle de Dieu. Et donc, Job a peut-être eu tort d'exiger cette apparition de Dieu, cette théophanie, mais il a eu raison de l'espérer. Je trouve très beau ce livre de Job et vous laisse cette formule finale d'un commentaire que je trouvais extrêmement belle. Job a compris que la blessure ouverte en lui par le silence de Dieu n'est autre que l'espérance. De cette blessure, il a accepté de ne pas guérir. Et j'ai rajouté, pauvre Dieu. Job a compris que la blessure ouverte en lui par le silence de Dieu n'est autre que l'espérance. De cette blessure, il a accepté de ne pas guérir. Pendant 30 chapitres, il a questionné, il s'est battu, il y est allé. C'est là où on voit cette persévérance de Job. Et finalement, Dieu a répondu. Alors ce livre de Job, je trouve, nous instruit par rapport à ces explications sur la souffrance qui sont balayées les unes après les autres, elles sont légitimes en soi, mais pas toujours adaptées. Il nous interroge par rapport à notre propre souffrance et au fait que il est sans doute légitime de ne pas avoir la réponse à nos pourquoi. Mais ce qui peut nous apaiser, c'est peut-être tout simplement de voir Dieu, de trouver la présence de ce Dieu délicat, de ce Dieu à la fois délicat et souverain. En tant qu'accompagnement de souffrant, en accompagnant de souffrant, cela aussi peut nous instruire par rapport à la position que nous avons par rapport à eux, par rapport à ne pas vouloir tout expliquer, tout justifier, être simplement là et être ceux qui peuvent, j'espère, les accompagner sur ce bout de chemin qui puisse les placer devant ce Dieu-là, des chapitres 38 à 42. Merci beaucoup.